Transmission.
Ah ouais! Eh les gars! Transmission, c'est le sujet de l'émission!
Vaste question, la transmission. Nous sommes des éducateurs et pendant une semaine, on s'est intéressé à ce que l'on donne, à ce que l'on reçoit et aussi à ce que l'on passe. Pour nous aider à approfondir notre réflexion, nous sommes allés à la rencontre de personnes concernées par ce sujet. Écoutez plutôt.
Il venait de cette ville blanche, de l'autre côté de la mer. Expatrié, déraciné par ce conflit qui, paraît-il, n'était pas une guerre. Alors pourquoi ? Pourquoi ce silence, ces non-dits, cette chape de plomb sur une histoire, leur histoire, mon histoire ? Je les ai interrogés des années sans avoir une seule réponse. Dites-moi s'il vous plaît, mamie ? Papa ? Tonton ? Tata ? Plus les années passaient, et plus ce trou béant devenait douloureux. Je savais qu'ils avaient fui l'Espagne vers l'Algérie, avec l'espoir d'y construire des jours meilleurs. Mais que s'était-il passé entre ce moment et le départ précipité par la mort de papy, victime de cette guerre dont on refusait le nom ? Et surtout, pourquoi mes questions généraient à chaque fois ces silences mêlés de gêne et de colère ? Il m'a fallu de longues années pour accepter de commencer à faire le deuil de cette partie de mon histoire familiale. J'ai même dû avoir recours à de longues séances, allongées au creux d'un divan réparateur. Seulement aujourd'hui, je suis père de 3 enfants. À leur tour, ils s'interrogent, m'interrogent. Que leur dire ? Comment leur dire ? Comment transmettre l'histoire familiale sans y accoler les traumatismes qu'elle a pu générer en nous ? Peut-être simplement en faisant le voyage avec eux. Retourner à Alger, retourner aux sources, aux racines. Retourner. Tiens, pourquoi j'ai dit ce mot alors que je n'y suis jamais allé ? C'est dingue comment j'ai pu intégrer cette histoire. Et finalement, qu'est-ce que je vais y trouver là-bas ? À part la désapprobation d'une famille qui refusera toujours de réouvrir les pages de ce livre interdit.
C'est terrible, la transmission familiale. On aimerait choisir. Ça, je prends. Ça, je laisse. Ça, surtout pas. Comme dans une maison. Dans une famille, on se transmet des objets, des valeurs, mais aussi des habitudes et des défauts. On se rend compte au fil du temps que nous reviennent certains trucs dont on aurait aimé se débarrasser et dont jamais on n'aurait imaginé qu'un jour on les aurait fait nôtres. De mon père, j'ai ainsi l'impression que de toutes ses qualités, je n'ai pas su retirer grand-chose. Par contre, je me rends compte que certains aspects de son caractère, que je ne supportais pas quand j'étais plus jeune, ont tranquillement, insidieusement, envahi ma propre manière d'être. Cette capacité à ne pas entendre, par exemple, et cette mémoire aussi, totalement sélective. Plus ça va, et plus j'oublie les choses. Mais pas tout. En fait, je garde ce qui m'arrange. Cette façon aussi d'être là, et d'être absente en même temps, indifférente. Ce détachement, je l'ai constaté lorsque j'ai petit à petit détesté répondre au téléphone. Dans la journée, je parviens à surmonter cette résistance. Mais passez une certaine heure de la journée, s'il vous plaît, ne m'appelez plus, je ne suis plus disponible pour vous répondre. Et ça m'affole de me dire que sur ce point je lui ressemble. Adrien, Clément, Flore et Clara, vous mes enfants, en vous voyant vivre et grandir, je suis rassurée de voir que vous ne fonctionnez pas comme moi. Et vous m'aidez aussi à lutter contre le courant familial. Par toutes les fibres de votre être, par tous les moyens, vous êtes liés aux autres. Internat viendra à bout de la transmission du repli sur soi. Alors aujourd'hui, je dis merci. Merci les portables, merci MSN, merci Facebook.
Je repense à un jour de l'été dernier, un jour où ma mère était plutôt irritée. Quand je dis irritée, le mot est faible, elle bouillonnait. Elle venait de se rendre compte que mes filles ont pris l'habitude de chercher leurs recettes de cuisine sur Internet. Marmiton.com, vous connaissez ? Tu récupères juste les recettes, sans les questions et surtout sans les conseils de ta mère ou de ta grand-mère. Sa réaction m'a paru complètement disproportionnée. Dans ces moments-là, je me dis aussi que ce n'est pas comme cela qu'elle va réussir à transmettre quoi que ce soit. D'ailleurs, je vois bien qu'elle regrette ensuite. Je voudrais vraiment que toutes ces tensions qui tournent autour de la cuisine ne passent pas encore une génération. C'est vrai que pour ma mère, la cuisine, c'est une part très importante d'elle-même. Ça fait vraiment partie de son identité. Et c'est pour cela qu'elle se crispe sur cette transmission-là. Alors que des choses à transmettre, elle en a beaucoup. En fait, il y a simplement des situations où elles ne se sont pas reconnues. Et là, ça tourne mal. Mes filles, elles, même si elles reconnaissent les compétences culinaires de leur grand-mère, elles sont à une période de la vie où on a surtout envie d'apprendre à se débrouiller seule. Alors les recettes et les conseils de mamie, oui, mais pas dans n'importe quelles conditions. En tout cas, pas au détriment de la relation avec elle. Moi, depuis ma place d'intermédiaire, j'essaye de favoriser le partage de petits moments de vie. Des moments, en somme, qui permettent de transmettre un peu de soi. Le goût pour la cuisine, entre autres, mais pas que. Des moments qui aident à vivre, tout simplement.
Un patrimoine, autant qu'un savoir-faire, peuvent se transmettre depuis de très nombreuses générations. C'est le cas au château Eugénie, propriété d'une même famille depuis 1470. Le château Eugénie, c'est un domaine viticole, près de Cahors, qui porte le nom de l'arrière-grand-mère de Jean et Claude Couture. Ils travaillent aujourd'hui avec leurs fils et neveux respectifs.
Bonjour.
Nous avons rencontré
Bonjour.
Jean et son neveu Jérôme.
Alors pour commencer, nous sommes une famille de vignerons. On a démarré avec mon frère Claude. Et à la suite des parents, au départ on avait 5 hectares de vignes et aujourd'hui nous en avons 50. Donc quand j'ai eu, je sais pas, 12 ans, 13 ans, en travaillant avec les parents, je me suis dit, bon, je prendrai sûrement la suite. Et puis quand ça s'est vraiment imposé, j'ai fait... disons quelques études et puis je me suis installé très vite en tant que vigneron, voilà.
Alors qu'est-ce qu'on apprend en famille qu'on n'apprend pas à l'école et qu'est-ce qu'on apprend à l'école qu'on n'apprend pas en famille?
En famille on apprend disons davantage de qualité humaine et puis davantage de pratique et on apprend aussi à vivre ensemble parce que ça c'est pas évident. Au début, il y a du tirage parce que chacun voit les choses de sa façon. Il y a les anciennes et les jeunes. Donc, il faut que chacun y mette du sien après pour que ça tourne. Je pense que dans les générations antérieures, la transmission se faisait, disons, plus au sein de la famille. Il y avait moins de formation extérieure. Aujourd'hui, c'est plus technique que traditionnel. Alors, au niveau du métier, bien sûr, il fallait apprendre à travailler le terrain, il fallait apprendre à tailler la vigne, il fallait apprendre à greffer la vigne, il fallait apprendre à reconstituer un vignoble, comme on a fait, mais avec le savoir des anciens. Et ça, c'était un atout pour le démarrage.
Qu'est-ce qui fait que vous arrivez de génération en génération à transmettre votre savoir, votre métier, votre vignoble? Et une deuxième question, qu'est-ce qui ferait que cette chaîne pourrait se rompre?
Disons que ça se transmet de père en fils, ça se transmet en travaillant tous les jours ensemble. Ça peut se rompre aussi si on a une génération qui ne désire pas faire ce travail, qui va aller être notaire, docteur, je ne sais quoi encore. Voilà, mais tant qu'on a la passion, le feu de la passion, disons que... Je pense qu'il y a quelque chose qui se transmet aux enfants. Savoir-faire, il y a l'amour du travail et de la vigne.
Et alors, quel sentiment pourrait susciter en vous le fait que personne, finalement, ne reprenne ce domaine?
Ah ben, j'aurais eu un sentiment de... disons, j'aurais été un peu malheureux de ne pas continuer quelque chose... dans lequel j'avais mis beaucoup de ma personne.
Voilà, on va aller voir Jérôme.
Moi, j'ai su que je voulais travailler dans le vin suite à ma seconde générale à Cahors. Donc je suis parti à Bordeaux. Là, j'ai appris vraiment la passion et l'amour du vin, quoi. Voilà.
Pas avant en famille.
Parce que mon père, il s'occupait plus de la vigne. Bien sûr, je suis monté sur les tracteurs. Bien sûr, comme tous les gamins, j'ai aimé ce rapport avec la terre. Et on m'a jamais poussé à faire ce métier-là. Et je crois que c'est arrivé un peu grâce à ça aussi, quoi. L'école est importante, je pense, pour arriver à s'ouvrir sur le reste du monde. Voilà, les parents, ils vont apporter tout le reste qui est beaucoup plus terre à terre. Voilà.
Merci.
Je vous en prie, merci.
Merci à vous. Merci.
Votre visite.
Merci à vous.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Connaissez-vous la tielle ? C'est une recette sétoise qui nous vient d'Italie. C'est une tourte à base de poulpe en sauce tomate, épicée, qu'on mange en entrée. À la base, c'est une recette toute simple. C'était le plat des pauvres. Moi, comme on dit, je suis tombée dans la marmite quand je suis née. C'est mon arrière-grand-mère qui l'a cuisinée. Et comme les gens aimaient, elle en a fait. Elle en a refait, jusqu'à en faire une entreprise. De mon enfance, je garde des souvenirs d'odeur et des saveurs délicieuses. Des heures de jeu avec de la pâte et de la farine. Dans le commerce familial, la vie est bouillonnante. Parfois ça pleure, ça rit beaucoup aussi. En tout cas, ça finit toujours autour d'une grande table. Fabriquer des tielles, les vendre, c'est s'inscrire dans la dynamique familiale. On se sent porté par les siens. D'ailleurs, une grande partie de ma famille en a fait son travail. Et puis ce plat, il parle aussi d'immigration. Et ça, c'est tout un pan de l'histoire de ma famille. Je suis fière de cet héritage. J'ai grandi avec cette richesse que ma grand-mère et mon père m'ont transmise. Mais plus le temps passe, plus je réalise que je préfère les manger plutôt que les fabriquer. J'avais besoin de dérouler mon propre fil. De toute façon, il est bien ancré dans le port de Sète. C'est mon travail qui m'a amené à m'éloigner. Et finalement, je me rends compte que c'était une bonne façon de faire mes propres choix. Puis mes enfants sont nés. Et là, j'ai senti que ce serait trop compliqué de transmettre seul. Qu'il allait me manquer quelque chose d'essentiel. Il fallait retourner aux sources. Parce que pour moi, les valeurs, elles se partagent dans un quotidien. Je suis donc revenue à Sète, histoire de voir si mes enfants pouvaient se nourrir de cet héritage. Finalement, impossible d'échapper à ce savoir-faire et à toutes les valeurs qui tournent autour. Moi, mes enfants, ils dégustent leur tielle tous les mercredis midi.
J'ai toujours été attentif et en demande d'histoire familiale. Le point de vue des miens sur les moments de leur vie, heureux comme malheureux. Quelle histoire nous est transmise ? Qui me transmet mon histoire ? Et pourquoi, quand deux personnes parlent d'une même histoire, il peut exister deux regards bien différents ? Petit, j'ai longtemps cherché à définir les responsabilités de mes parents sur leur séparation, leur divorce et leur incapacité à dépasser ce traumatisme. Difficile d'aborder son histoire douloureuse de couple, alors que les émotions, l'orgueil et la rancœur sont encore bien présents. Pourtant, l'enfant que j'étais avait besoin de comprendre. Ton père n'était jamais à la maison. Ta mère est allée voir ailleurs. On attrape ces explications parcellaires au vol. C'est ce qui m'a été livré à ce moment-là. Aujourd'hui, la couleuvre est digérée. Mes parents se sont aimés, ils me l'ont dit. Le bonheur existait, et c'est ça qui compte aussi. Plus tard, quand mon fils sera en âge de comprendre, j'essaierai de lui apporter une vision plus globale de cette rupture familiale, sans oublier le bonheur qui l'a précédé. Je lui dirai : tu vois, fiston, ce qu'on te transmet, c'est pas toujours suffisant pour bien comprendre ton histoire. Il te faudra sans doute poser des questions pour la compléter et laisser passer du temps pour mieux la saisir.
Ah, la famille ! La sacro-sainte famille. Et pourtant, il y a vraiment des parents qui sont toxiques et qui vous transmettent souvent, même sans le vouloir, un paquet de non-dits, d'interdits, de tabous. Ce fardeau grossit de génération en génération et insidieusement le poison se distille, parfois jusqu'à vous rendre malade. Alors, comment faire pour se protéger et pour se débarrasser de ce boulet et devenir enfin soi-même ? Moi, pour commencer, j'ai pris le large, tout simplement. C'était même pas conscient, un espèce de réflexe de survie. Après le bac, je suis partie faire mes études à Besançon, 250 km de chez mes parents, histoire d'être suffisamment loin pour ne pas pouvoir rentrer tous les week-ends. Mais à 18 ans, la solitude, l'indépendance, c'est très dur. Quand, au lieu de vous donner la confiance, votre famille vous a transmis la peur, l'angoisse, la honte même. Moi, c'est la prise de distance qui m'a ouvert les yeux. Plus j'étais loin, et plus je me disais « c'est pas possible comme ils sont graves !» Je suis passée par le cabinet des psys aussi, pour mettre des mots sur ma souffrance, sur mes symptômes, comme ils disent. Et puis, il m'a fallu du temps pour comprendre, pour accepter que je n'avais pas reçu non plus que du mauvais. C'était à moi de trier, d'élaguer et de choisir. Et puis surtout, maintenant, j'ai réalisé que je fais partie de la grande famille, celle des humains, des terriens. Alors, c'est pas si grave. Ce que ma famille biologique n'a pas pu ou su me transmettre, d'autres me l'apportent. Tiens, la confiance, justement. Je la dois beaucoup à Frédéric et Marie-Pierre aussi, deux amis rencontrés sur le chemin de la vie. À chaque moment important, quand je doute, elles sont là, elles m'encouragent. Ce sont les échanges, les rencontres, les discussions, la diversité qui tous les jours me nourrissent, me construisent et me reconstruisent même. Mais attention, là aussi j'essaye de ne pas absorber ni adhérer à tout ce que les gens racontent. J'en prends, j'en donne aussi, et puis j'en laisse. Après tout, c'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi, non ?
Nos émotions.
Le respect de soi, de l'autre. Des autres.
La constance.
On ne sait pas ce qu'on transmet, ça nous dépasse.
La confiance. L'envie de se creuser la tête.
La fiabilité, confidentialité.
Des moments de légèreté à travers l'humour.
Du cadre.
Des cigarettes, des tickets de resto, des cartes de bus.
On transmet ce qu'on est, tout simplement.
On transmet le mal-être d'une institution. Et ça, ça vient percuter nos valeurs.
Le droit à l'erreur.
La conviction qu'on vaut tous quelque chose.
Putain, on transmet trop de trucs, fais chier.
L'écoute.
Qu'on est tous différents et que c'est cool.
De grands moments de solitude.
On transmet la gastro. Nomi.
Rien, on ne transmet rien.
Ça, c'est ce qu'on transmet aux jeunes dont on s'occupe dans notre travail. Enfin, qu'on essaie de transmettre. Ou qu'on transmet parfois sans le vouloir.
On peut être surpris par les rencontres qu'on fait dans la vie. Parfois, elles s'imposent à nous, comme une évidence. C'est un large sourire qui nous accueille et nous accompagne, et la volonté de donner, de transmettre. C'est une belle expérience. J'avais déjà vécu 10 ans à la protection judiciaire de la jeunesse, croisé des dizaines d'éducateurs, des travailleurs sociaux, des professionnels de l'éducation. Alors, la question de la transmission du savoir-faire et du savoir-être, je pensais l'avoir déjà bien abordée. Et puis j'ai rencontré Cathy, une de ces éducatrices passionnées, collègue de bureau, devenue amie et confidente au fil du temps. Chaque cigarette partagée était l'occasion de poursuivre nos discussions sur ce métier qui nous liait et nous réunissait chaque jour. Avec bienveillance, modestement, tu venais apaiser une angoisse, effacer un doute. C'est difficile aujourd'hui de mettre en mots ce que tu m'as transmis. Ta disparition prématurée a interrompu cette tranche de vie. Il y a eu l'absence, et curieusement, je me suis sentie sereine, portée par tes messages, tes formules. Je me souviens de ton « ça va ma Florence ?» Il paraît que j'aurais pu être ta sœur, c'est ce que tu disais. Côte à côte au boulot, nous partagions nos vies de femmes, l'une apportant son expérience, l'autre trouvant des réponses jusque-là en suspens. Hier soir, ma fille a encore fait un caprice. J'ai perdu patience, fallait que je t'en parle. Je suis découragée. On fait un boulot de dingue. Tu y crois, toi, à l'amour ? C'était ça. Des petits riens. Échange de bons tuyaux, conseils culinaires et transmissions en tout genre. Voilà, Cathy. Nos souvenirs professionnels et tes récits restent des témoignages précieux. Aujourd'hui, j'ai envie de les partager avec d'autres. Alors, je vais tenter de reprendre le flambeau en essayant d'être à la hauteur, convaincue qu'il faut continuer à transmettre.
Odette Conti. Petit portail blanc en plastique.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour.
Nous avons rendez-vous avec Odette, juste à côté du stade de rugby à Cahors.
Asseyez-vous, oui, oui. Combien vous êtes ? 1, 2, 3, 6.
Odette,
six.
Elle aime le travail bien fait. C'est ce à quoi elle s'est attachée durant sa longue carrière. Il est 14h30 et nous accueille chez elle. Elle va nous décrire son parcours.
J'étais institutrice pendant 8 ans dans une classe unique à la campagne, avec 29 élèves de 4 à 14 ans. Imaginez tout le système. Et puis ensuite, pendant 20 ans, dans des classes spécialisées, des classes de perfectionnement pour les enfants retardés.
Vous avez le sentiment alors d'avoir abordé cette question de la transmission ?
Moi, je vais vous parler de la transmission du savoir. Ça remonte aux années 44. Hein. C'est pas jeune. Et c'était pas du tout comme maintenant, certainement. On utilisait beaucoup le livre et la parole, bien sûr. Il n'y avait pas terriblement d'échange entre les élèves et le maître. Après, quand j'étais dans ces classes de perfectionnement, c'était totalement différent. Parce que d'abord, c'était des classes réduites, des enfants qui avaient été plus ou moins malmenés dans les classes ordinaires et qui en souffraient beaucoup. Alors, ce n'était pas du tout la même façon de transmettre. Il fallait utiliser, là, d'autres moyens, le dessin, les contacts entre eux. Mais les élèves qui étaient vraiment adroits de leurs mains, j'en ai qui sont devenus plombiers, qui sont devenus carreleurs, peintres, et qui ont fait une carrière, qui ont bien travaillé. Ils se sont bien débrouillés, cela je les vois encore quelquefois.
Justement, je me demandais si vous rencontriez certains de vos anciens élèves, donc vous dites que oui. De quoi est-ce que vous parlez avec eux quand vous les retrouvez ?
Ils me parlent d'abord de l'école, qu'ils ont été bien dans ces classes. Et même ceux de la campagne, il y a quelques-uns que j'ai eus, il y en a maintenant qui sont même disparus, qui m'ont dit un jour, tout ce que je sais, je l'ai appris avec vous. C'était un bon compliment.
C'était important pour vous de transmettre ce savoir ?
Je ne sais pas si on avait conscience qu'on transmettait quelque chose. Les gosses vous rendaient tellement de sympathie. On n'avait pas l'impression de transmettre le savoir. Remarquez, il y en a qui ne savaient pas lire et qui ont appris à lire. Un autre qui, quand je m'approchais de lui, mettait le bras. Il sortait d'une école où il était tabassé. Il y en avait qui prenaient des raclées par des maîtres, sûrement. Mais les parents ne venaient pas se plaindre. C'est pas un bon système de taper les gosses, ça sert à rien. Il vaut mieux les garder le soir tout seul et de leur expliquer. Alors on faisait dans ces classes de l'enseignement pratique, voyez, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. On apprenait, moi j'apprenais aux gosses à remplir la feuille de sécurité sociale. Ils ne savaient pas.
Vous faisiez bien plus que de la transmission de savoir.
Eh bien, c'était bien ça, le savoir, si vous voulez. C'était de l'éducation plus que du savoir.
Moi, j'ai une dernière question. Et alors, en tant que maman et mamie ou grand-mère, je ne sais pas comment vous dites, vous étiez aussi un peu une maîtresse ou...
Quelquefois, j'ai des arrière-petits-enfants, quand ils ne travaillent pas trop bien, mon petit-fils leur dit « Je vais t'envoyer chez Mamu, tu vas voir, je m'appelle Mamu, elle te redressera. » Mais je voudrais qu'ils apprennent le travail bien fait. Le travail bien fait, voilà. Même si on en fait peu, mais que ce soit pas chiffonné, pas salopé. Aïe, aïe,
aïe, aïe. Quand on est éducateur, on ne sait jamais à l'avance ce que l'on va transmettre, ni comment on va le faire. On vit avec les jeunes, on les écoute, on les conseille, on les recadre. On croit qu'avec le temps et l'expérience, on maîtrise tout ce que l'on fait. Mais non, il existe toujours des situations qui nous surprennent, qui nous démontrent qu'il n'y a pas un modèle de transmission interchangeable. Je pense à cette jeune fille d'un peu plus de 17 ans, hébergée dans un studio. Très active les premiers jours de son arrivée, elle s'emmure très vite dans un discours vis-à-vis de moi qui me fait régulièrement sortir de mes gonds. À chaque rencontre, je la trouve amorphe, malade, plutôt sale. Au début, j'essaye la méthode éducative. Je l'encourage, je l'écoute, je la soutiens. mais elle refuse toute discussion. Elle me répète sans cesse : j'ai pas confiance en toi. Ça dure depuis 6 mois. Je finis par ne plus comprendre le sens de mon intervention. Je lui pose 2 ultimatums d'exclusion pour la faire réagir. Rien n'y fait. Je finis par réduire mon action à une simple prestation hôtelière. Je passe que pour lui délivrer des tickets service. J'en profite également pour décharger sur elle toutes les tensions accumulées à l'extérieur. Je lui gueule dessus. Je crois même que je trouve un malin plaisir à la pourrir. Pourtant, je suis en décalage total avec les valeurs éducatives que je défends. Écoute, patience, respect de l'autre. À 15 jours du terme de cette prise en charge, je passe la voir en coup de vent pour finaliser les détails de son départ. Ouf. Mais en fait, d'un coup de vent, j'affronte un véritable cyclone de plus de 2 heures. Elle met tout en place pour me retenir. Elle me redonne cette place d'éducateur. Et je finis par deviner l'origine de son mal-être. Elle m'avoue avoir été victime d'un viol. Elle garde ce secret depuis 2 ans. Et c'est sûrement que ça tombe. J'en avais fini de cette situation, et voilà que ça commence. Derrière mes mots et mon attitude rejetante, j'ai réussi à mon insu à lui transmettre une position d'adulte rassurante. Comme quoi, rien n'est écrit à l'avance. L'aventure humaine n'est pas une science exacte. Et l'on ne transmet pas tout le temps ce que l'on dit, mais toujours ce que l'on est.
Et voilà, l'émission touche à sa fin. Mais peut-on vraiment parler de fin après tout ce qu'on vient de transmettre ? De fin, pas exactement. On espère vous avoir communiqué nos émotions, nos réflexions. En tout cas, nous, on a pris plaisir à les partager avec vous. Cette émission a été réalisée dans le cadre d'une formation des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Sud. Une équipe composée de Ronan, Véronique, Florence, Myriam, Eric, Ludovic, Marie-Hélène et Virginie. Un grand merci à Jean Couture et son neveu Jérôme, les vignerons d'Albas, Odette Conti, institutrice à la retraite, Antenne Doc, Fred, animatrice sur cette radio, qui a vécu toute l'expérience avec nous. L'association Wakadi, on a quelque chose à dire, le pôle territorial de formation de Toulouse, et on transmet toutes nos amitiés aux habitants de l'Uzèche. À bientôt et bonne transmission!